4. La quête de l'anneau. À propos du périple des cavaliers noirs, d'après le récit que Gandalf en fit à Frodo. Gollum fut fait prisonnier au Mordor en l'année 3017 et emmené à Barad-dûr, et là il fut questionné et mis au supplice. Lorsqu'il eut tiré de lui ce qu'il put, Sauron le relâcha et le laissa partir. Il se méfiait de Gollum, pressentant en lui quelque chose d'indomptable qui ne se pourrait vaincre, même par l'ombre de la peur, sauf à le détruire complètement. Mais Sauron perçut les intentions malveillantes de Gollum à l'encontre de ceux qu'il avait détroussés. Et devinant qu'il irait à leur recherche pour se venger, il espérait qu'il conduirait ainsi ses espions jusqu'à l'anneau. Cependant Gollum tomba rapidement aux mains d'Aragorn, qui l'emmena au nord de grand-peur. Et bien qu'il fût suivi à la trace, il ne put être secouru avant d'être placé sous bonne garde. Or Sauron ne s'était jamais soucié des demi-hommes, quand bien même il en eût entendu parler, et il ne savait même pas où se trouvait leur terre. De Gollum, même sous la torture, il n'avait pu obtenir d'indications claires, car Gollum n'en avait aucune idée précise, mais aussi parce qu'il déformait ce qu'il en savait. Comme l'avait deviné Sauron, il était en effet définitivement indomptable, sinon par la mort, à la fois par ses origines de demi-homme, et pour une autre raison que Sauron ne comprenait pas pleinement, étant lui-même consumé de désir pour l'anneau. Et Gollum se mit à nourrir envers Sauron une haine plus grande encore que sa terreur, voyant en lui son ennemi le plus redoutable et son rival. Et c'est ainsi qu'il osa faire semblant de croire que le pays des demi-hommes s'étendait près des lieux où il avait autrefois vécu, non loin des berges de la rivière aux flambes. Or, Sauron, apprenant la capture de Gollum par les chefs de ses ennemis, fut soudain pris de hâte et de crainte. Mais aucun de ses espions et messagers ordinaires ne lui pouvait fournir la moindre indication. Et cela pour une large part, en raison de la vigilance des Dunedain, mais aussi de la trahison de Saruman, dont les propres serviteurs retardaient les envoyés de Sauron ou les induisaient en erreur. Et Sauron vint à s'en apercevoir, mais il n'avait pas encore le bras assez long pour atteindre Saruman à Isengard. C'est pourquoi il dissimula ce qu'il savait du double jeu de Saruman et masqua sa colère, attendant son heure, et alors il se préparera à la terrible guerre avec laquelle il projetait de balayer ses ennemis jusque dans la mer de l'Ouest. Au bout du compte, il décida que désormais, il lui fallait recourir à ses serviteurs les plus puissants, les spectres de l'anneau, qui n'obéissaient à d'autres volontés que la sienne, chacun étant entièrement soumis à l'anneau qu'il avait asservi et qui était sous le pouvoir de Sauron. Et rares étaient ceux qui pouvaient résister à une seule de ces terribles créatures. Et, pensait Sauron, pour peu qu'ils soient toutes réunies sous le commandement de leur terrible capitaine, le seigneur de Morgul, nul ne pouvait leur résister. Et cependant, pour les desseins actuels de Sauron, leur intervention présentait des inconvénients. Car les spectres, même lorsqu'ils étaient invisibles et à nu, inspiraient une terreur telle que leur venue serait promptement discernée et leur mission percée à jour par les sages. Ainsi Sauron se prépara-t-il à frapper un coup double, et par la suite, nombre de gens devaient y voir le commencement de la guerre de l'anneau. Les deux coups furent assénés simultanément. Les orques assaillirent le royaume de Thranduil avec ordre de se ressaisir de Gollum, et le seigneur de Morgul fut dépêché pour défier ouvertement le Gondor. Cela se passait vers la fin de juin 3018. Pour Sauron, il s'agissait de mettre à l'épreuve la résistance de Denethor, mais aussi de voir où en étaient ses préparatifs, et ils se révélèrent plus importants qu'il ne l'avait escompté. Mais cela ne l'inquiéta guère, car il n'avait jeté dans l'assaut qu'une minime partie de ses forces, et il avait pour principal dessein de lâcher les Nazgûl uniquement dans une optique de manœuvre militaire contre le Gondor. C'est pourquoi lorsque Osgiliath fut prise et le pont rompu, Sauron rappela ses troupes et ordre fut donné aux Nazgûl de se mettre en quête de l'anneau. Mais Sauron ne sous-estimait pas les pouvoirs et la vigilance des sages, et il fut enjoint aux Nazgûl d'agir aussi discrètement que possible. À cette époque, le chef des spectres de l'anneau résidait à Minas Morgul avec 6 compagnons, tandis que son second, Camul, l'ombre de l'Est, était posté à Dol Guldur comme lieutenant de Sauron avec un autre qui lui servait de messager. Lors, le seigneur de Morgul conduisit ses compagnons à travers l'Anduin, à nu et sans monture, et invisible à tous yeux, mais émanait d'eux une épouvante obscure qui frappait tout être vivant qu'ils croisaient. Ils se mirent en route, croit-on, le premier jour de juillet. Lentement et furtivement, ils passèrent à travers l'Anorienne et franchirent le pas de l'Antévière pour atteindre le Vold, et les précédait une rumeur de ténèbres et une terreur que les hommes ne pouvaient expliquer. Ils parvinrent sur la rive ouest de l'Anduin, un peu au nord de Sarngebir, où ils avaient rendez-vous. Et là, ils reçurent armes et armures et des chevaux, et on les fit secrètement passer de l'autre côté du fleuve. C'était, croit-on, aux environs du 17 juillet. Et ils gagnèrent le nord à la recherche du comté, le pays des demi-hommes. Vers le 22 juillet, ils retrouvèrent leurs compagnons, les Nazgûl de Dol Guldur, au champ de la Celebrant. Là, ils apprirent que Gollum avait échappé aux orques qu'il avait repris et aux elfes qui le poursuivaient et qu'il avait disparu. Et Camul leur dit également qu'aucune habitation des demi-hommes ne se pouvait découvrir dans le val de l'Anduin et que les villages des Forteaux, près de la rivière aux Flambes, avaient été depuis longtemps abandonnés. Mais le seigneur de Morgul, ne voyant meilleur parti à prendre, se résolut de poursuivre ses recherches vers le nord, espérant autant tomber sur Gollum que trouver le comté. Que cette province soit à proximité de la détestable Lorienne lui semblait vraisemblable, à moins qu'elle ne fût située à l'intérieur des frontières de Galadriel. Mais il ne voulait pas défier les pouvoirs de l'Anneau Blanc, ni pénétrer pour l'instant en Lorienne. Et c'est ainsi que, passant entre la Lorienne et les montagnes, les neuf chevauchèrent droit au nord, et la terreur les devançait et s'attardait dans leur sillage. Mais ils ne trouvèrent rien de ce qu'ils cherchaient, ni aucune nouvelle qui pût leur servir. Et au bout du compte, ils s'en retournèrent. Mais l'été tirait à sa fin et croissait la fureur et l'inquiétude de Sauron. Lorsqu'ils revinrent dans le Vold, septembre était déjà là, et ils rencontrèrent des messagers de Barad-dûr, porteurs de menaces si effroyables de la part de leur maître qu'elles épouvantèrent jusqu'au seigneur de Morgul lui-même. Car Sauron venait d'apprendre les termes de la prophétie entendue au Gondor et de l'expédition de Boromir, des actions de Saruman et de la capture de Gandalf. De tout cela, il avait conclu que ni Saruman, ni aucun des autres sages n'était pour l'instant en possession de l'anneau, mais que Saruman savait à tout le moins où il pouvait être dissimulé. La hâte seule lui serait désormais utile et la discrétion n'était plus de mise. C'est pourquoi les spectres de l'anneau reçurent l'ordre de se rendre à Isengard, un continent. À bride abattue, ils chevauchèrent à travers le Rohan, et telle fut la terreur sur leur passage que bien des gens fuirent la contrée et s'en allèrent tout éperdus vers le nord ou vers l'ouest, croyant que la guerre accourait de l'est sur les talons des noirs coursiers. Deux jours après que Gandalf eut quitté Orthanc, le seigneur de Morgul s'arrêta devant la porte d'Isengard. C'est alors que Saruman, déjà rempli de rage et d'effroi après l'évasion de Gandalf, mesura l'étendue du péril où il s'était mis. Entre ces deux ennemis, et connu pour traître des uns et des autres. Et grande fut sa peur, car son espoir de tromper Sauron, ou du moins de jouir de ses faveurs au jour de la victoire, était anéanti. Et il n'avait à présent d'autre alternative que de trouver lui-même l'anneau, ou d'être livré à la ruine et au tourment. Mais il avait encore prudence et ruse. Il avait fortifié Isengard en vue précisément de cette sombre éventualité. L'anneau d'Isengard ne se pouvait forcer même par le seigneur de Morgul et sa suite sans l'intervention d'imposantes troupes militaires. Aussi, à ses défis et exigences, le seigneur de Morgul ne reçut en réponse que la voix de Saruman, laquelle, grâce à quelque artifice, semblait s'élever de la porte même.
« Ce n'est pas un pays dont vous êtes en quête, » dit la voix. « Je sais ce que vous cherchez, bien que vous ne le nommiez point. « Je ne l'ai pas, comme doivent le savoir assurément ses serviteurs, sans même qu'on le leur dise. Car si je l'avais, vous plieriez le genou devant moi et m'appelleriez seigneur. Et si je savais où était cachée la chose, je ne serais pas ici, mais parti bien avant vous, afin de m'en saisir. Un seul, je le devine, est détenteur de ce secret, Mithrandir, ennemi de Sauron. Et comme il a quitté Isengard, il y a à peine 2 jours, cherchez-le donc dans les environs. »
Et la voix de Saruman avait encore pouvoir tel que même le seigneur des Nazgûl ne mit pas en doute ce qu'elle avait proféré, mensonge ou vérité partielle, mais promptement il tourna bride et, quittant la porte, se mit immédiatement à la recherche de Gandalf à travers le Rohan. Ainsi advint-il qu'au lendemain soir, les cavaliers noirs tombèrent sur Grima, langue de serpent, qui courait prévenir Saruman que Gandalf était venu à Edoras et avait averti le roi Théoden des perfidies qui se tramaient à Isengard. En cette heure, le langue de serpent se vit tout près de mourir de peur, mais endurci par l'habitude de la traîtrise, il aurait dit tout ce qu'il savait sous de bien moindres menaces.
« Oui, oui, je peux vous l'affirmer assurément, seigneur, » dit-il. « Je les ai entendus s'entretenir ensemble à Isengard, le pays des demi-hommes. C'est de là que vint Gandalf, et c'est là qu'il voulait retourner. À présent, il cherche seulement un cheval. Pitié, épargnez-moi. Je parle aussi vite que je peux. Il faut prendre à l'ouest par la brèche du Rohan là-bas, et puis au nord, et ensuite un peu à l'ouest, jusqu'au prochain grand fleuve qui barre la route. » Griffleur est son nom, et de là jusqu'au gué de Tharbad, où la vieille route mène aux frontières. Il l'appelle le Comté. Oui, en vérité, Saruman connaît bien ce pays. Il en recevait des provisions par la route. Épargnez-moi, seigneur. En vérité, je ne soufflerai mot à quiconque de notre rencontre. »
Le seigneur des Nazgûl concéda la vie à langue de serpent, non par pitié, mais parce qu'il jugea sa terreur telle qu'il n'oserait jamais parler de leur rencontre à âmes qui vivent, et ce fut le cas effectivement. Et il vit que c'était un être vil, susceptible de faire grand mal encore à Saruman s'il avait la vie sauve. Aussi le laissa-t-il gisant à terre, et s'enfuit-il sans prendre la peine de retourner à Isengard. La vengeance de Sauron pouvait attendre. Or donc, il scinda sa compagnie en 4 paires, et ils allèrent séparément, mais lui-même prit la tête avec la plus rapide des paires. Cheminant ainsi, ils passèrent à l'ouest, hors du Rohan, et explorèrent les solitudes désolées de l'Enedweth pour parvenir enfin à Tharbad. De là, ils chevauchèrent à travers le Minyriath, et ils ne s'étaient même pas encore regroupés qu'une rumeur d'effroi se répandait autour d'eux, et les bêtes sauvages se terraient, et les hommes solitaires se sauvaient au loin. Mais ils firent prisonniers quelques fugitifs sur la route, et à la joie du capitaine, il apparut que 2 d'entre eux étaient des espions au service de Saruman. Et de l'un d'eux, Saruman avait fait actif usage entre Isengard et le comté, et bien qu'il n'ait jamais été lui-même au-delà du quartier sud, il était en possession de cartes dessinées par Saruman qui représentaient et décrivaient en détail le comté. Les Nazgûl s'emparèrent des cartes et envoyèrent l'espion à Bri pour suivre ses activités, l'avertissant toutefois qu'il était désormais au service du Mordor, et que s'il essayait jamais de revenir à Isengard, il l'exécuterait par d'horribles tortures. La nuit blanchissait en ce 22e jour de septembre, lorsque, chevauchant à nouveau de concert, ils atteignirent le gué de Sarn et les confins sud du comté. Ils les trouvèrent gardés, car les coureurs leur barrèrent la route. Mais c'était là une tâche au-delà des forces des Dunedain, et peut-être auraient-ils échoué quand bien même leur capitaine Aragorn eût été parmi eux. Mais il était loin au nord sur la route de l'Est, près de Bri. Et même aux Dunedain, le cœur faillit. Certains fuirent vers le nord, espérant porter la nouvelle à Aragorn, mais ils furent poursuivis et tués ou chassés dans les solitudes. D'autres eurent le courage de défendre le gué, et ils tinrent bon tant qu'il fit jour, mais à la nuit, le seigneur de Morgul les balaya, et les cavaliers noirs pénétrèrent en comté. Et avant que ne chantent les coqs, au petit matin de ce 23e jour de septembre, certains d'entre eux parcouraient la région, se dirigeant vers le nord, dans le même temps où Gandalf, monté sur Scadufax, chevauchait loin derrière, à travers le Rohan.